Vieilles Branches, une production Nouvelles Écoutes en partenariat avec Radio Nova. Pour cet épisode un peu spécial de Vieilles Branches, nous sommes allés retrouver Laure Adler dans son fief à Radio France. La maison ronde, grouillante de monde hors pandémie, était déserte et la cafétéria où nous nous sommes posés juste avant son émission L'Heure Bleue avait l'air presque hors service. Mais mon bonheur de rencontrer Laure Adler, figure tutélaire pour quiconque homme ou femme fait de la radio, n'a pas été entamé, d'autant plus qu'elle transmettait quelque chose de très joyeux elle aussi et qu'elle partait le lendemain se réfugier dans une maison dans le sud pour laisser passer la tempête Covid. Je vous disais que cet épisode était spécial parce que nous n'avons pas fait l'entretien chronologique habituel. Un nouveau livre de Laure Adler vient d'être publié. Il parle d'un sujet qui forcément nous concerne à Vieilles Branches, la vieillesse. Et j'avais envie qu'on parle surtout de ça, de confronter mes intuitions de 2 ans et quelques d'interviews de personnes d'un âge certain ou d'un certain âge avec les pensées d'une femme que j'admire et qui rentre dans la vieillesse non sans avoir fait ses recherches.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant 1 heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout, de la
je suis encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser, ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écoutez les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective, c'est un véritable bouclier.
Ah, vieilles branches !
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieilles Branches. Je suis Marie Misset, et aujourd'hui nous parlons de la voyageuse de nuit avec Laure Adler, dans une cafétéria déserte de Radio France. Bonsoir Laure Adler.
Bonsoir.
Vous imaginez, je pense, peut-être, comme c'est impressionnant pour moi, une journaliste radio, non seulement de vous interviewer...
Bah pourquoi ?
Bah parce que, mais de le faire dans votre maison, Radio France. Bon, c'est vrai que là, on est dans la cafétéria, il y a plus impressionnant comme décor, on peut le dire. J'ai l'impression de rentrer dans la gueule du loup, mais d'un loup dont j'aurais un peu rêvé. Vous n'avez pas tout à fait l'âge requis, normalement, pour rentrer dans cette émission. Vous en êtes pas très loin, il vous manque 1 ou 2 ans.
Ah, mais vous ça avez... va venir.
Ça... Oui, ça va venir, de toute façon, ça va venir. Mais vous avez publié un livre merveilleux, La Voyageuse de nuit. C'est un livre de réflexion, de rencontre, d'inspiration sur la vieillesse qui s'annonce, donc, petit pas. On y croise des jouvenceaux tels Edgar Morin et même feu Agnès Varda qui fait une sieste pendant que vous regardiez le montage de son dernier film. Ça, c'est la dernière fois que vous vous êtes vus. On parle avec Annie Ernaux et Mona Ozouf, avec Voltaire, Stéphane Hessel, Edgar Morin et puis Marcel Proust qui dit, et ça semble si vrai, même à 30 ans, la vieillesse de toutes les réalités, celle dont nous gardons le plus longtemps une pensée abstraite. Vous pensiez écrire un livre d'intello, vous baladez entre les citations, et puis vous finissez par faire un livre de société, peut-être même de combat, traversé par des questions intimes, parfois une grande joie, la possibilité d'une plénitude, d'un rapport à soi et au temps changé, mais aussi par une certaine colère devant le sort réservé aux personnes âgées, les plus dépendantes, comme celles qui sont parfaitement autonomes d'ailleurs. Ma première question, Laure Adler, c'est de savoir comment, alors même que vous avanciez sur ce projet de livre et que vos réflexions sur le regard et le sort que réserve notre société aux vieux, ça sert, comment est-ce que vous avez vécu ces derniers mois ?
Très douloureusement, parce que mon père vient de disparaître et que c'était pendant la période du confinement. On avait parlé de sa mort, il en parlait ouvertement, de manière assez tranquille.
Il l'appelait presque de ses vœux, peut-être.
Il l'appelait de ses vœux, tout à fait, vous avez raison. Et ce n'était pas du tout un sujet tabou entre nous, mais je n'ai pas pu l'enterrer selon ses dernières volontés. D'abord, je n'ai pas pu le voir pendant 2 mois et demi, parce qu'il était en EHPAD et que les EHPAD étaient fermés. La fois où Emmanuel Macron a parlé à la télévision en disant je vais assouplir les règles qui permettront aux familles des résidents d'EHPAD à venir les visiter. Le lendemain matin, j'ai appelé la directrice de l'EHPAD où étaient mon père et ma mère. Et je lui ai demandé de venir, c'était loin de là où j'étais. Elle m'a délivré une attestation, j'ai traversé une France comme si c'était l'apocalypse. Personne sur l'autoroute, personne sur les aires de stationnement. Les seules voitures qui circulaient, c'était les ambulances et les pompiers. Et je suis arrivée dans l'EHPAD où on avait réveillé mes parents de la sieste parce que j'avais pas choisi l'heure. Et on les avait habillés avec une sorte de carapaçonnage comme les guerriers du Moyen-Âge, de plastique transparent, sans leur en expliquer les raisons, de la tête aux pieds. Et on avait installé mes parents à 5,50 m de là où j'avais l'autorisation de leur parler, c'est-à-dire dans la salle à manger. Mon père était sourd, il n'entendait rien. J'avais le masque, il avait le masque. Je pouvais pas parler avec lui, communiquer avec lui. Donc on m'a autorisé au bout d'un quart d'heure ou de 20 minutes à m'approcher de lui. C'était une situation absolument d'épouvante et d'effroi, mais j'ai entrevu le regard de mes parents. Et ça a été la dernière fois que j'ai vu mon père, puisque 3 jours après, la directrice de l'établissement m'a appelé et m'a dit « Votre père a passé une très mauvaise nuit, mais je crois que ça va aller. » Je lui ai dit « Je repars ?» Elle m'a dit « Non, non, non. » Et puis 2 heures après, elle m'a dit « Venez vite. » Et là, j'ai encore vécu une autre histoire, c'est-à-dire que la directrice de l'établissement m'a permis d'être cachée dans l'EHPAD pour me permettre à ma sœur qui est arrivée de New York dans des circonstances rocambolesques et après beaucoup de difficultés, pour nous permettre toutes les deux d'assister à l'agonie de notre père. Donc jusqu'au bout, ça a été un roman très noir, mais un roman.
Vous avez vécu,
mais je n'ai pas pu enterrer mon père selon ses volontés.
Cette situation qu'ont vécu énormément de Français, d'avoir la mort qui leur était retirée.
Dérobée, volée, c'est un acte absolument atroce. C'est la première fois que personnellement j'y ai été confrontée. J'ai entendu tout et son contraire de la part des pompes funèbres, notamment que des familles entières disaient aux pompes funèbres « Mon père, ma mère, mon oncle, ma tante... » les pompes funèbres disent qu'ils sont morts du Covid, mais ils sont pas morts du Covid, etc., etc. On gonfle les chiffres du Covid. Enfin, on était en plein délire. N'empêche que ce qui était vrai, c'est que mon père voulait être enterré religieusement. C'est que les églises étaient fermées. J'ai pas pu l'enterrer religieusement. J'ai eu énormément de mal à trouver un prêtre. J'ai pu trouver un prêtre et j'ai eu l'autorisation de proposer à 8 personnes. Dont le prêtre, de faire son homélie dans le cimetière, surveillé par des gendarmes.
C'est quelque chose dont on n'a même pas beaucoup parlé encore depuis qu'on a été déconfiné et puis reconfiné maintenant, mais de cette absence de rites funéraires qu'ont vécu toute une partie de la population française et qui est assez inédite, même en temps de guerre, je crois.
Oui, mais vous voyez, je pense personnellement, en dehors de ce que j'ai traversé, mais nous sommes... des dizaines, voire des centaines de milliers à avoir vécu des choses bien pires que mon expérience. Et je le sais, parce que je reçois beaucoup de témoignages et de confessions même, très très douloureuses. Je pense que là, on atteint un point de rupture de civilisation. C'est-à-dire que les vivants qui ne peuvent pas procéder rituellement à l'ensevelissement de leurs propres proches, de leur propre famille, là, c'est que une partie de l'humanité est en train de se dissoudre, voire de s'auto-flageller, et que ça peut mener à des conséquences extrêmement graves sur le plan des relations humaines et sur le plan du vécu existentiel après la mort. Je veux dire, on sait très bien que les morts cohabitent dans notre imaginaire. Il y a même des sociétés qui savent les rappeler, qui savent leur parler, etc., etc. Nous, les Occidentaux, hélas, en tout cas en France, parce qu'il y a des Occidentaux, notamment en Islande, ou même dans des pays limitrophes de la France, comme la Belgique, où le rapport avec la mort est beaucoup plus sain, beaucoup plus apprivoisé, beaucoup plus doux, etc. Ce qui n'est pas le cas en France, sans doute en raison de notre catholicisme. Mais en tout cas, on sait que vivre avec nos morts, ça demande l'administration de règles et de rituels. Et ne pas permettre à ces règles et ces rituels de se dérouler va encombrer notre imaginaire de manière vénéneuse. Et c'est pas bien pour les vivants. Et je suis pas sûre que ça soit bien pour les morts non plus.
Et je peux pas m'empêcher de vous demander, en vous écoutant... Est-ce que ça s'est passé pendant l'écriture de votre livre et à un moment dans votre livre...
Non, le livre était terminé.
Le livre était terminé parce qu'à un moment dans votre livre, vous dites que c'est un chagrin assez indicible, le chagrin qu'on a quand on laisse ses parents dans des institutions qui sont les meilleures possibles pour soi. Vous dites que c'est un chagrin indicible dont on ne se parle pas, un chagrin que chacun vit individuellement.
Une défaite même.
Une défaite, oui. Et ça pourrait changer. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, c'est un chagrin qui est vécu par beaucoup de gens, le fait de devoir quelque part un peu abandonner ses parents à quelque chose qui ne les traite pas tout à fait comme des vraies personnes. Du coup, je me demandais si vous l'aviez vécu avant ou après.
Oui,
ça,
je l'ai vécu dans mon âme et dans mon âme et conscience, si j'ose dire, et dans la chair et dans mon corps aussi. Parce que on a tout fait, nous, les enfants, pour que nos parents puissent rester à domicile. Et d'ailleurs, c'est les directives du gouvernement, et je pense que le gouvernement a raison, même s'il ne le fait pas du tout assez, de favoriser ce qu'on appelle les aides à domicile. Donc, mes parents ont vécu pendant plus de 40 ans dans le même appartement. Mon père avait toute sa tête. Mon père avait des problèmes de locomotion à l'intérieur de son appartement, mais il avait une canne. Il commençait la journée en lisant 3 journaux par jour. Il était sur son ordinateur. Il prenait des nouvelles de tout le monde. Il présidait une association pour essayer d'aider les plus fragiles. Enfin bref, il avait une vie super active. Mais il a pensé qu'à un moment, il était trop défaillant pour continuer à être l'auteur de sa propre histoire.
C'est lui qui a demandé à être placé en EHPAD.
C'est lui qui a demandé. Et ma mère ne voulait pas, et j'ai respecté le choix et de mon père et de ma mère, tout en lui disant à mon père, pourquoi tu veux aller en EHPAD? Pourquoi tu te coupes de cette vie alors que tu as des infirmières qui viennent à domicile, que tu as des aides qui viennent te faire les repas, que la vie va bien, que tu as toute ta tête, que tu es complètement dans le monde, etc., etc. Et là, je crois avoir compris 2 choses qu'il faut, méditer. Je les ai pas compris, ces choses-là. C'est que, arrivé à un certain âge, ou à un âge certain, c'est sans doute le regard de la société sur ces personnes qui les enjoint à penser comme ça. Mais mon père a dit, il faut bien mourir. Alors mon père, je lui ai dit, mais pourquoi tu meurs puisque tu te portes très bien et que tu nous apportes beaucoup de joie et de bonheur? Oui, mais il y a un moment où il faut bien mourir. Donc je vais en EHPAD. Parce que c'est un endroit pour aller mourir.
Je vais attendre là-bas.
Exactement. Et j'ai dit, mais papa, c'est pas possible. Mais laisse-moi tranquille, c'est mon problème, c'est mon histoire. 3 fois, il m'a fait faire la valise. 3 fois, il m'a fait faire les papiers, l'administration, etc. 3 fois, il m'a fait convoquer l'ambulance. Et 3 fois, on est rentré à la maison. Mais la 4e a été la bonne. Il a pris l'ambulance, je l'ai accompagné à l'EHPAD. Et là, j'ai fait les papiers, il est resté. Et 2 jours après, il s'est cassé la gueule dans la nuit, alors qu'il s'était jamais cassé la gueule. Il s'est cassé le poignet, il s'est senti autorisé à être invalide, faible. Et là, il a commencé un discours qu'il n'avait jamais tenu et que l'institution génère malgré elle. Parce que je dis pas que toutes les institutions d'EHPAD sont des horreurs, je fais pas de l'EHPAD bashing, mais je dis que l'institution de clôture par l'âge et le grand âge de la vie sociale en général autorise les résidents, puisqu'on les appelle ainsi, drôle de nom, les résidents à se dire, on est de trop, on va commencer à s'apprêter à mourir. Et là, la chute, il a jamais chuté chez lui, jamais. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait du linoléum, parce que c'était glissant, parce qu'il y a certaines EHPAD qui sont pas bien équipées pour les personnes très âgées, etc. Et à partir de son incapacité, il a monté en épingle et il a commencé à s'auto-intoxiquer en disant « je suis plus bon à rien, il faut que je dégage le plancher ». C'est le cas de le dire, même si c'était du linoléum.
Vous croyez qu'il y avait de la honte, qu'il y a de la honte à un moment qui s'installe dans la vieillesse, dans le fait d'être vieux, aujourd'hui en France ?
Je pense qu'on nous fait honte. Je pense que la société jette un regard sur nous à partir d'un certain âge ou d'un âge certain, comme si c'était une honte de vieillir. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années. C'est pas bien de vieillir. Alors qu'avant, c'était bien de vieillir. Et c'était au contraire un supplément de quelque chose. Supplément de vie, supplément d'expérience, supplément de sédimentation de connaissances. On était plus sachant que les autres, on était plus fort que les autres, puisqu'on avait survécu à des tas de maladies et qu'on continuait à être en vie, etc., etc. Dans d'autres civilisations, c'est quelque chose de bénéfique et de positif, mais pas dans la nôtre, plus dans la nôtre.
Et vous liez ça au fait qu'on est passé d'une société de transmission à une société de consommation. C'est quoi le rapport que vous faites ? C'est le fait que la consommation, c'est toujours du nouveau, donc que la transmission, même d'objets, par exemple, n'a plus lieu d'être, n'a plus
Oui, compte. Je pense qu'on est passé dans une société d'instantanéité du présent, de consommation de ce présent, de consommation, surconsommation de l'excès de l'inutile, qu'on vous fait passer pour de l'utile, et qu'il faut vivre sa vie de manière extrêmement accélérée, de manière à ne pas perdre de temps, et que nous, les vieux, on est considérés comme des surplus, des excédents, comme dans la société capitalistique ou néolibérale qui accompagne son mode de fonctionnement de choses inacceptables que nous finissons tous par accepter silencieusement parce que c'est la règle, parce que c'est le mode d'emploi, parce que c'est comme ça que tout le monde fait, qu'on n'est pas une exception et on veut pas déranger, etc. De la même manière que nous avons accepté depuis une petite dizaine d'années silencieusement que notre société capitaliste génère dans ses excès et de terribles excès, puisqu'on sait que chaque année, les gens de plus en plus riches deviennent encore plus riches et que les gens les plus pauvres deviennent encore plus pauvres et que les inégalités ne cessent de s'accroître à une vitesse stupéfiante, eh bien, nous nous sommes habitués depuis une petite dizaine d'années à ce que notre économie génère une grande pauvreté qui s'accroît, une poche de pauvreté qui atteint quand même 10% de la population. Et cette poche de pauvreté, finalement, à part les associations bénévoles, les associations caritatives, les modes opératoires des SAMU des villes, etc., etc., finalement, tout le monde l'ignore parce que tout le monde veut l'ignorer. Et pourtant, tout le monde sait qu'elle existe. Mais on ne veut pas le savoir. Et bien, c'est pareil pour les vieux.
C'est pareil pour les vieux, c'est pareil pour la mort, c'est pareil pour les hôpitaux. Par exemple, les hôpitaux et la mort, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est que je me dis qu'on va tous être concernés à un moment donné. Nous, nos proches, par exemple pour les hôpitaux.
Ça, c'est sûr.
On va absolument tous être concernés. Comment ça se fait que ça
mais
reste dans
Mais pour les vieux aussi. Hein.
Pour les vieux,
on va tous vieillir, même vous les jeunes.
Mais avec un peu de chance, on va vieillir en plus. On le souhaite, on ne souhaite
autant
que ça.
Autant vieillir mieux que ce qu'on vieillit en ce moment.
Et comment ça se fait que ces problèmes qui nous concernent absolument tous, à titre individuel, encore plus pour la mort et la vieillesse, soient comme ça aussi facilement tabouisée, je suis désolée pour ce mot qui n'existe pas, qu'elle soit comme ça mise sous le tapis, et comment est-ce qu'on arrive même à le supporter en tant que société. Et tout à l'heure, vous disiez que supprimer les rites funéraires, ça allait nous faire du mal aux morts comme aux vivants, mais c'est la même chose, rendre tout ça tabou, c'est mauvais pour une société en entier. Je vous pose pas de questions là.
Non, mais je crois que vos réflexions, qui sont très judicieuses, vont toutes dans le même sens et dans le même sens que certains sociologues, certains anthropologues, certains démographes, certains spécialistes de l'âge, certains scientifiques car j'ai rencontré aussi beaucoup de scientifiques et j'ai passé beaucoup de temps dans les EHPAD, tout le monde s'accorde à dire que finalement la mort est complètement invisibilisée et finalement tout converge vers cette peur panique que nous avons de la mort. Alors qu'avant, la mort, elle était inscrite dans le trajectoire intrinsèque de notre propre finitude. C'était pas un but, mais en tout cas, c'était un horizon. On savait tous qu'on pouvait pas y échapper. Alors que maintenant, elle est devenue, c'est le grand tabou, la mort. Et depuis une vingtaine d'années, c'est même encore plus tabou parce qu'il y a des charlatans soi-disant scientifiques qui s'appellent les transhumanistes, qui font croire à des populations otages de leur propre idéologie que la mort n'existe plus, que les scientifiques vont pouvoir nous faire accéder soit à une sorte de cryogénisation de nos propres corps qui vont pouvoir tourner autour de la tête, de la Terre, et tout en gardant notre tête, soit nous faire peut-être accéder à une forme d'immortalité. Donc, on est dans une sorte de déni absolu de la mort, et ce faisant, ce déni et cette peur panique de la mort qui explique que on n'a plus le droit d'avoir du chagrin quand on enterre un de ses proches, on n'a plus le droit de passer du temps après un enterrement dans un cimetière ou après une crémation d'un proche. On n'a plus le temps de célébrer même l'office de l'enterrement parce que faut aller vite et puis il faut être rentable, y compris dans les cimetières et les crématoriums, etc., etc. Les convois funéraires doivent aller très très vite vers des funénariums qui se trouvent le plus loin possible du centre des villes pour que les corbillards n'encombrent pas l'espace public du cœur battant de nos villes. Donc maintenant, c'est dans les friches industrielles, entre des magasins de dépôt de meubles au mieux ou des locaux de poubelles. Donc tout ça fait de nos existences une sorte d'accélération vers le diktat du jeunisme où, quand on est jeune, beau, efficace, on détient les clés du monde. Mais à partir du moment où on a dépassé cet âge-là, eh bien, on n'est plus rien.
Et surtout, on veut pas voir les vieilles personnes puisqu'elles nous rappellent qu'en fait, c'est ça, elles nous rappellent en permanence qu'on va devenir aussi vieux et puis qu'un jour, on va mourir. Vous m'avez quand même un peu...
Mais ce qui est drôle, vous voyez, puisqu'on parle d'anthropologie, et j'ai pu le vérifier avec plusieurs expériences et notamment avec celle de mon petit-fils, les très jeunes enfants n'ont pas du tout peur des personnes âgées. Pas du tout.
Même des personnes âgées...
Très âgées.
Très âgées et
vous
très
pouvez
dépendantes.
Absolument. Ouais. De la même manière que les petits-enfants n'ont pas peur des gens très vulnérables.
Et il y a des
Donc c'est des choses bien inculquées socialement, administrées de l'extérieur de nous-mêmes.
Et il y a des endroits en Europe, vous en parlez, où il y a des jardins d'enfants à côté de centres pour personnes âgées.
Oui, ben moi j'ai réussi à mettre ma mère dans un EHPAD à Paris où quand vous rentrez, à gauche c'est la crèche et à droite c'est l'EHPAD.
Et ça
Donc il faudrait généraliser parce qu'il y en a très très peu.
Le petit frottement que vous entendez, c'est celui du blouson vif argenté de Laure Adler près de son micro. Alors oui, la conversation est partie sur des pistes un peu sombres, mais promis, on va vers la lumière. Toutes ces pistes, elle les évoque dans La Voyageuse de nuit, ce livre presque d'enquête sur la vieillesse pour lequel elle a visité des dizaines d'EHPAD, racontant au passage une très belle histoire, celle d'un chorégraphe qu'elle suit dans un EHPAD et qu'elle voit littéralement insuffler la vie à ses résidents. Mais le livre de Laure Adler sur la vieillesse est loin d'être juste sombre, il laisse entrevoir la possibilité d'un vieillissement très joyeux, où on adhère plus étroitement à la vie. Parmi les dizaines de citations de son livre, je voulais citer Mauriac, qui près de la fin écrivait « Vivre suffisait désormais à m'occuper. Le sang qui afflue à ma main, cette mer que je sens au-dedans de moi, le monde si près de finir, exige une attention de tous les instants. » Et allez, une de Freud avant de remonter le temps avec Laure Adler. « La vie à mon âge n'est pas facile, mais le printemps est magnifique, et tel est l'amour. »
Alors, tout à l'heure, vous avez dit aujourd'hui, il faut vivre très très vite, il faut faire énormément de choses. C'est marrant parce que moi, quand je lis votre vie à vous, j'ai l'impression que vous l'avez vécue depuis les années 60 dans une certaine urgence. Je me rappelle avoir lu une interview de vous en septembre qui m'a mis Je me suis dit, mais je n'ai rien fait de ma vie, je n'ai rien. Vous disiez à 19 ans, vous aviez eu un enfant, vous aviez déjà commencé.
Oui, mais c'était la période, hein, c'était les années 70 où
bien
il fallait
sûr.
Faire
mais
tout à toute vitesse.
Mais c'était quoi cette urgence ? Il fallait déjà faire tout à toute vitesse à ce moment-là. C'était quoi
je vais vous dire, c'est des choses matérielles, hein, ce n'est pas des choses que j'ai souhaitées personnellement. C'est-à-dire que moi, je suis partie très jeune de chez mes parents, contre l'avis de mes parents, parce que l'âge légal. D'être
31.
Enfin l'âge légal pour vraiment disposer de sa liberté en tant qu'adulte c'était 21 ans, moi je suis partie à 18 ans et puis j'ai voulu vivre ma vie, donc j'allais pas demander de l'argent à mes parents puisque je les avais quittés et qu'ils voulaient me garder. Donc à ce moment-là, moi je voulais continuer à faire des études, j'ai eu un enfant à une période où il y avait pas il y avait pas la contraception. Donc, je me suis retrouvée avec deux enfants en même temps, puisque j'ai commencé à vivre avec une personne qui avait un fils qui a vécu avec moi. Donc, d'un seul coup, à 18 ans et demi, j'ai eu un fils qui est sorti de mon ventre et un autre fils que j'ai éduqué. Mon compagnon et mon amoureux étaient un chercheur du CNRS un apprenti chercheur du CNRS qui devait gagner l'équivalent de 400 ou 500 euros comme les travailleurs précaires, les jeunes chercheurs d'aujourd'hui. Donc voilà, il a bien fallu que, pour continuer à faire mes études, que j'aille faire des petits boulots. Et j'étais très contente parce que j'ai beaucoup appris de tous mes petits boulots.
Mais je me suis dit qu'on était, par rapport à la vôtre, une génération un peu lente à la détente.
Non, parce qu'on vous a plus protégés.
Bah, carrément.
Mais parce que aussi, il y avait le fait que, dans ma génération, quand on voulait un boulot, alors je vous dis pas que c'était pas rentré comme médecin dans les hôpitaux ou directeur de recherche au CNRS ou avocat au barreau. Non, mais si je voulais être serveuse dans un restaurant, si je voulais faire des enquêtes dans la rue pour un organisme de recherche, si je voulais vendre des chaussures dans un magasin de chaussures, toutes trois choses que j'ai faites, et j'en ai fait bien d'autres aussi, je trouvais du boulot quand je voulais. C'était le plein emploi, moi, quand je suis arrivée dans le monde du travail. Or, aujourd'hui, être jeune en 2020, c'est vraiment très, très difficile. C'est une jeunesse qu'on est en train de sacrifier en ce moment, à cause notamment de cette foutue pandémie, mais aussi à cause de l'absence de croyance en notre jeunesse. Moi, je suis arrivée dans un monde où, avoir 20 ans en 1970, j'ai été accueillie par les plus vieux d'entre eux qui me disaient « on a besoin des jeunes, on a vraiment besoin de vous », et accueillie et considérée par les plus vieux qu'on appelait les vieux cons, parce que si on a fait 68, c'est parce qu'on trouvait qu'il y avait la société des vieux, et qu'on trouvait qu'on n'avait pas assez de place, et qui nous disaient « finalement, vous avez raison, il faut qu'on dégage le terrain ».
Comme aujourd'hui avec OK Boomer.
Hein. Ouais, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. La situation de la jeunesse est vraiment très, très compliquée et très difficile. Et d'ailleurs, il y a un lien entre la défense de la jeunesse aujourd'hui et la défense de la vieillesse aujourd'hui. Et c'est pas un hasard si lors du premier confinement, beaucoup de jeunes sont allés voir des vieux pour leur porter secours et leur apporter de la présence.
Vous avez eu une relation avec un homme que vous aimez depuis plus de 40 ans, je crois, toujours, si ça n'a
pas
changé
calculé,
depuis. C'est écrit dans votre livre. Est-ce que vous avez senti, en vieillissant à ses côtés, qu'il était différent de vieillir en tant qu'homme et en tant que femme ? Est-ce que, par exemple, par rapport à lui, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez beaucoup en exergue dans La Voyage de la Nuit ?
Oui, alors effectivement, je trouve que pour les hommes, c'est toujours beaucoup plus facile de vieillir et qu'un homme ne vieillit pas, mais il mûrit, comme l'a dit si bien Simone Signoret à propos d'Yves Montand. Elle disait « Moi, je vieillis, mais lui, il mûrit ». Bon, et ben, c'est toujours le cas aujourd'hui. Dans l'espace médiatique et cinématographique, on voit qu'il y a des personnes âgées, toujours séduisantes, mais ce sont principalement et très majoritairement des hommes. Il y a très, très peu de femmes. En ce qui concerne mon compagnon, il a un côté très sauvage, très adolescent. Donc, je dirais qu'il fait... Mais il se croit jeune, quand même, alors qu'il est plus vieux que moi. Moi, je crois que je me sens plus vieille que lui, alors qu'en fait, il est plus vieux que moi.
Parce que les gens lui font sentir moins.
Peut-être, ouais, c'est le regard social, oui, et sociétal.
Vous citez d'ailleurs une actrice qui dit vieillir égale devenir moche. C'est pas la première fois que j'entends ça dans Vieille Branche. Ça vient toujours du côté des femmes. Hein. Le vieillir, c'est devenir moche. Et je vais vous poser une question qui me taraude un peu, que j'ose pas poser parce que j'ai l'impression de trahir mon genre. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que cet aplanissement de différence entre les physiques des femmes très belles et moins belles, ça ne permet pas aussi des relations différentes entre femmes plus apaisées au fur et à mesure?
C'est-à-dire, vous pensez que toutes les femmes qui vieillissent savent qu'elles perdent une partie de leur flamme?
Je ne sais pas.
Et donc, ça les met toutes à égalité.
Un
peu plus à égalité.
Je ne suis pas très fière de cette question, mais c'est une vraie question que je me pose.
Je sais pas, elle est très complexe, votre question. Je ne sais pas vraiment y répondre. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça prend moins d'importance. C'est pour ça que je dis qu'il faut défendre les vieux, parce que c'est pas que les apparences qui comptent, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur. Et peut-être que votre question sur l'apparence rejoint effectivement une réflexion, en tout cas que j'ai ressentie au plus profond de moi-même. C'est pas moi qui l'ai décidé, ça m'est tombé dessus. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé, qui vous en ont peut-être parlé. Les apparences ont moins d'importance quand on vieillit. C'est pas nous qui le décidons, c'est comme ça. Par contre, ce qu'on vit à l'intérieur de soi a beaucoup plus d'importance que nos propres apparences. Mais par contre, je trouve que essayer de garder une apparence correcte, c'est très important aussi pour les femmes.
Pour les femmes?
Oui, mais pour les hommes aussi. Mais je pense à cette chanson-là, je crois que c'est Charles Aznavour, là, « Tu te laisses aller ».
Je ne l'ai pas.
Ah, elle est magnifique. Tu te laisses aller. Alors, c'est l'histoire d'une... C'est l'histoire, comme par hasard, d'une femme. Hein. Ce n'est pas un homme qui parle, mais d'une femme qui vieillit et puis qui quitte pas sa robe de chambre, quoi. De toute la journée, et puis qui ne va pas se coiffer, et puis qui ne se maquille plus, et puis qui ne s'habille plus, et tu te laisses aller. Tu te laisses aller, alors comment veux-tu que je continue à te regarder? Je crois quand même qu'il ne faut pas se laisser aller. Alors maintenant, ça rejoint aussi une réflexion très marrante que j'ai vue sur Internet il y a quelques jours, de Jane Fonda. Ah
bah Jane qui Fonda, se laisse pas aller, hein.
Super, c'est
incroyable,
une bombe.
Incroyable, à plus de 80
ans.
Eh bien
oui, ben, écoutez, il y a un ou deux ans, elle a dit « c'est fini le sexe », donc j'ai arrêté. Elle a dit ça d'une manière très marrante, elle a dit « je ferme la boutique ». J'ai trouvé ça très très marrant. Et là, elle a dit « c'est fini pour moi ». C'est très dur pour moi, mais fini les apparences, je baisse le rideau. Et elle a arrêté de se teindre les cheveux. Et elle dit, c'est dur parce que j'ai quand même l'impression que je reste un peu séduisante, mais en fait, je ne le suis plus du tout. Mais pour moi, elle reste séduisante.
Elle reste en tout cas...
Mais à ses yeux, elle se dit, ça y est, c'est fini, je joue plus sur rien.
Et vous croyez que d'être débarrassé comme ça de l'impératif peut-être de séduction, ça rend les femmes dangereuses? Je pense à la phrase de Thérèse Claire que vous citez, qui dit « Nous, les vieilles, nous sommes l'avant-garde éclairée », parce que quelque part, débarrassée de
oui, de peut-être, cette invention. Peut-être, ça rend les femmes dangereuses parce qu'elles sont porteuses d'un savoir inouï qu'elles ne connaissent pas et d'une force intérieure qu'elles n'ont pas encore découverte. Et ça rejoint des réflexions que j'ai lues dans Françoise Héritier dans Masculin Féminin 1, où dans certaines sociétés traditionnelles en Afrique, le fait d'être une femme très très vieille vous autorise à être chef, alors que normalement il n'y a que des hommes qui puissent être chef, et à avoir un pouvoir un peu surnaturel.
Mais parce que vous ressemblez de plus en plus à un homme, c'est pas ça la
conclusion?
Non,
c'est parce que vous êtes passé depuis très très longtemps après la ménopause, c'est-à-dire que vous perdez plus de sang. Donc ouais. vous n'êtes plus blessé de l'intérieur. Donc vous pouvez avoir une force intègre, entre guillemets, corporelle et psychique.
J'ai beaucoup aimé l'idée que vieillir, c'était un petit peu divorcer du monde peu à peu, le voir parfois plus flou, hein, de manière très pragmatique, enfin très, très réelle. Et est-ce que c'est pas quelque part ce qui permet à certaines personnes dont vous parlez dans votre livre, justement d'adhérer encore mieux à soi, le fait de voir les choses plus floues, du coup de plus les tenir plus pour acquises, et du coup sentir le sang dans les veines, sentir le pouls qui bat dans le cœur, etc.
Alors ça aussi, c'est des choses qui vous tombent dessus, qui vous arrivent progressivement, que vous prenez ou pas. Il y a des gens qui résistent. Moi, je prends. Il y a des gens qui aiment bien vivre dans le flou, et moi je pense que j'aimerais beaucoup de plus en plus le flou qui va s'agrandir, obscurcir, etc., etc. Mais il y a d'autres gens qui résistent, et je pense que le fait de résister en s'accrochant à une période nostalgique du passé va encore augmenter leur angoisse et leur inquiétude. Donc je pense qu'il y a une forme d'abandon qui est plutôt jouissive.
Bah, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé les phrases notamment de Dominique Rollin, 88 ans, « Mon rapport au temps a changé, je suis rentrée dans le temps ». On a vraiment l'impression d'une sorte, bah, comme vous en parlez à propos des très vieilles femmes, d'une nouvelle phase de compréhension du monde, quoi, qu'on rentre quelque part presque dans la terre.
Je sais alors il y a quelque chose de très troublant qu'un grand spécialiste de l'âge m'a dit, et qui rejoint cette sensation qu'a pressenti Dominique Rollin. C'est qu'il m'a dit, c'est des travaux scientifiques qui ont été publiés dans Nature, qui dit que, c'est vraiment très très étonnant, qu'au-delà de 102 ans, on vieillissait beaucoup plus lentement.
Il faut les atteindre, mais une fois qu'on les atteint, on arrive aux 105, voilà. Assez facilement, c'est ça. Mais il y a quelque chose de végétal presque.
Exactement.
Et vous le dites, vous venez de le dire, il ne faut pas se laisser aller. Ça demande une certaine aptitude au bonheur, cette capacité à être heureux de vieillir, à l'accepter.
Il y a pire que vieillir. Hein.
Et ça demande aussi, j'ai l'impression, une grande exigence pour être vraiment heureux. En tout cas, pour vivre les choses dans la manière dont vous les décrivez de certaines personnes qui donnent vraiment envie dans votre livre. C'est-à-dire qu'on lit votre livre, on se dit « Ah bah ça !» J'aimerais bien le vivre tout de suite, j'aimerais bien le vivre maintenant.
Oui, mais ça demande une certaine exigence aussi vis-à-vis de soi. Par exemple, Stéphane Hessel, il apprenait des poésies tous les jours. Claude Lanzmann, il apprenait et connaissait par cœur des poèmes de Victor Hugo qui se récitaient tous les matins et tous les soirs. Edgar Morin, lui, c'est plutôt le domaine de l'opérette. Alors, il chante des opérettes à tue-tête, soit le matin, soit le soir, quelquefois les deux. Et ce sont tous, pour les gens qui sont vivants aujourd'hui, qui atteignent vraiment presque l'état centenaire, voire avoir 100 ans, parce que ça devient banal maintenant d'avoir 100 ans, et il y a de plus en plus de gens qui ont 100 ans en France et qui se portent très très bien, ça demande un appétit de connaissance, ça demande d'être étonné par la vie, ça demande de pas être blasé.
Et vous savez, c'est vraiment, parce que ça fait maintenant 2 ans que j'interviewe des personnes qui ont soit votre âge, soit qui sont beaucoup plus âgés, ça change quand même vraiment quelque chose, cette génération. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, c'est la curiosité.
Et la curiosité. Mais devant un brin d'herbe, devant le bleu du ciel, devant le sourire d'une soignante.
Vous décrivez Edgar Morin, mais on a l'impression que c'est une curiosité d'absolument tous les instants. En tout cas, vraiment, cette partie du livre, elle donne envie... Même pas d'être vieux, elle donne envie de prendre le temps et d'y arriver tranquillement. Mais ça a l'air aussi...
Vous n'allez peut-être pas jamais vieillir, attention.
Bah je sais, je sais bien. On a de la chance qu'on vieillit. D'ailleurs, la différence entre votre génération et celle d'Edgar Morin, c'est qu'ils ont vécu la guerre. Ils ont vécu parfois la guerre très jeune, avec la mort, j'imagine, qui a rôdé autour de très jeunes. C'est déjà une différence entre la génération d'Edgar Morin et la vôtre.
Nous, on n'a jamais connu la mort collective. Enfin, on a connu le sida. Mais justement, quand on pense au sida, qui a été vraiment une très sale période pour nous, où on a perdu beaucoup d'amis, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'amplitude des médias. C'était, par rapport à la pandémie qu'on traverse, comme disent les enfants, c'était moins pire. On n'a pas connu la mort collective, effectivement.
Et nous, jusque-là, on ne l'avait pas...
Oui, mais on la connaît, là, maintenant. Mais on ne la connaît pas encore.
Non, on ne la connaît pas vraiment, puisque tout est invisibilisé. Ouais.
Oui, mais je pense que ça va faire des séquelles. Mais plutôt, alors on le parlait de la jeunesse tout à l'heure, moi, j'ai très peur que ça fasse des séquelles chez les tout-petits-enfants.
Ceux qui vivent là, à l'école.
Quand vous pensez qu'il faut porter un masque dès l'âge de 6 ans, quand vous pensez que... Des petits, comme mon petit-fils qui a 5 ans, quand j'essaye de l'embrasser pour l'endormir le soir et qui me dit « Mais mamie, tu sais donc pas qu'on n'a plus le droit de s'embrasser ?» Non mais alors, qu'est-ce qu'on va fabriquer, quoi ?
Et pour finir, parce qu'on a bientôt plus de temps, parce que vous avez dit que vous aviez votre émission qui commençait bientôt, vous avez l'air de tenir beaucoup, beaucoup à l'amitié. Et moi, c'est ce qui me semble peut-être le plus dur dans l'idée de vieillir. Je vous livre mes peurs à moi, c'est de voir comme ça les amis disparaître.
Eh ben, c'est ça, vieillir. C'est ça, vieillir, c'est perdre ses amis. Et hélas, bon, alors, moi, j'ai perdu 3 très proches amies qui sont mortes beaucoup trop jeunes. Mais vieillir,
C'est ça.
C'est voir ses amis et des gens que vous aimez beaucoup qui disparaissent. Et vous, vous êtes là. Ma mère, qui est vivante et bien vivante, elle connaît 2 personnes qui sont encore vivantes dans son entourage. Plus que 2.
Et on s'habitue ?
Elle n'a pas l'air de s'y habituer. Elle veut mourir pour rejoindre les autres. Mais je ne sais pas comment... Je crois qu'on ne s'habitue pas à ça, non.
Non. Ma dernière question, c'est est-ce que c'était mieux avant ?
Non ! C'est beaucoup mieux.
Ce n'est pas vrai.
C'est beaucoup mieux demain. Ça sera beaucoup mieux demain. C'est les cons qui disent ça.
Bien sûr. Est-ce que vous avez peur de la mort, Laura Adler, tant qu'on y est ?
Les gens très proches de moi, c'est-à-dire mes enfants, me disent que je suis pathétique tellement je fais comme si j'en avais pas peur.
Et vous vous dites quoi ?
Que je suis pathétique. Les enfants ont toujours tort, mais en fait, ils ont toujours raison.
Merci.
J'aimerais bien leur donner tort, mais je crois qu'elles ont raison.
Et un immense merci à Laura Adler d'avoir grappillé sur ces précieuses minutes de préparation de l'heure bleue pour pouvoir passer un peu plus de temps avec moi. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes, présentée par Marie Musset. Mixage, Laurie Galigani. Réalisation, coordination et prise de son, Marine Roux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter, @_vieillebranche, ou alors sur Instagram, @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.